L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et à 20h, on viendra sur cet attentat qui a ensanglanté une plage de Côte d'Ivoire près d'Abidjan. Donc hier, 16 victimes, dont 4 Français justement. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut être déstabilisée? Est-ce que l'économie de cette région peut être emportée par le terrorisme? On se posera la question. Pour démarrer eh bien cette nouvelle demi-heure, comment faire d'un recul sur la loi travail un nouveau départ? Oui, c'est la question qu'on se pose après des jours de psychodrame dans la majorité, de début de manif, de report, de consultation avec les partenaires sociaux. Eh bien, on attendait cet après-midi la nouvelle copie de cette loi travail El Khomri, qui sera donc normalement défendue en Conseil des ministres le 24 mars. Hein. Et c'est Manuel Valls qui a fait les annonces au patronat et syndicat à Matignon. Matignon, normalement, on nous attend. Caroline Morisson, on vous écoute, Caroline.
Bien, Fabrice, Manuel Valls a fini par céder, hein, même sur des points qu'il qualifiait lui-même de murs porteurs de cette réforme il y a encore quelques jours. Premier point capital aux yeux des syndicats, il n'y aura pas de plafonnement des indemnités prud'homales. Hein. Ce plafonnement sera finalement remplacé par un simple barème indicatif non contraignant, conformément à ce que souhaitaient les syndicats réformistes. Les syndicats ont également obtenu gain de cause sur la question des licenciements économiques. Les motifs vont être reformulés de manière moins mathématique pour laisser une plus large marge d'appréciation au juge, et quoi qu'il en soit, c'est bien le juge qui restera souverain sur ces questions. Enfin, autre concession, aucun assouplissement du temps de travail ne sera possible sans accord d'entreprise. En clair, la CFDT a obtenu gain de cause sur toute la ligne, et ce soir, le syndicat réformiste se dit globalement satisfait.
Oui, on entendra Laurent Berger. Merci beaucoup Caroline Morisseau pour BFM Business à Matignon. J'accueille Jean-Claude Volo, chef d'entreprise à la tête de Dedian Aerospace. Véronique Jérôme est avec nous. Elle est politoéconomiste à la tête d'Electionscope. Et puis Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Jean-Claude Volo, c'est Manuel Valls qui a appelé cet après-midi à un nouveau départ pour la loi travail. Est-ce qu'on est dans un nouveau départ ou dans un recul, clairement?
Ben, vous donnez la réponse, on est dans un recul, ça, c'est clair qu'on est dans un recul. Nous autres, chefs d'entreprise, on a commencé à croire que quelque chose allait se passer, que la confiance, on allait pouvoir la redonner. Ça, c'était vraiment important. Vous savez, on en a souvent parlé. Cette confiance, elle est capitale, elle est immatérielle, on peut pas la définir, mais elle existe, là, qui fait que les entrepreneurs vont avoir confiance et vont recommencer. Évidemment, les entrepreneurs voient ça, ils disent, ça y est, ça recommence, on peut pas avoir confiance, parce que, en fait, les entrepreneurs, depuis maintenant 20 ans, on est toujours soumis au même truc, hein. C'est la rue qui commande et c'est la trouille qui commande. Donc, on a, c'est ça le problème, c'est ça, et je ne vois pas en quoi les nouvelles propositions qui ont été faites vont pouvoir redonner confiance. Au contraire, elles accentuent la défiance.
Laquelle, Jean-Claude Volo, quel recul vous peine le plus, si vous voulez, embête le plus ce soir?
C'est quand même les syndicats réformistes comme les autres de salariés n'imaginent pas à quel point le risque d'être sanctionné lors d'un licenciement, sévèrement sanctionné. Moi, je l'ai vécu entrepreneur, je peux venir raconter les histoires, une par une, les vérifier avec les dossiers. À quel point ça vous freine à embaucher. Alors vous cherchez toutes les solutions. Vous allez sous-traiter, évidemment, de plus en plus dans les pays à bas coût, bien entendu. Vous allez trouver tous les moyens pour ne pas le faire vous-même, bien sûr. Alors vous renforcez vos équipes d'acheteurs, mais vous ne renforcez pas vos équipes de salariés, d'ouvriers, d'ingénieurs et autres, ça surtout pas. Pourquoi ? Parce que vous avez cette méfiance. Et là, évidemment, on a une accélération qui va se produire, parce qu'il y avait un espoir. Espoir déçu, on va avoir au carré la déception.
Une vengeance? Non, quand même pas, de la part des chefs d'entreprise.
Non. Ils continueront d'être frileux et de pas bouger.
Oui, mais le barème qui devait plafonner de façon impérative les indemnités prud'homales sera seulement indicatif, hein, dit Manuel Valls. Bon, puis, il en avait fait pourtant l'un des marqueurs. Ça sera inutile.
Et Fabrice, oui. L'entrée du juge dans le système, c'est pire que tout.
Oui, bien sûr.
N'oublions pas quand même que dans les cours sociales en France, on a énormément de juges qui sont là pour des raisons philosophiques et politiques. Pas d'autre. Personne ne le dit. Moi, je le dis. À l'âge que j'ai, je peux faire mal.
Non, mais Jean-Claude n'est pas le seul à le dire. Il y a les travaux qui ont été faits par Pierre Cahuc, etc., qui montrent exactement la même chose.
Donc. Emmanuel Le Chypre, qu'est-ce qui va rester de cette loi El Khomri?
Si vous voulez, pour résumer, on est parti d'une loi qui était une loi MEDEF. On arrive à une loi CFDT. Et finalement, c'est dommage que ce soit pas une loi Pôle emploi. parce qu'effectivement, au final, on change pas grand-chose par rapport à ça. Et c'est même pire, au sens... Rappelez-vous quand même juste la situation française. Hein. C'est, d'un côté, 75% des salariés qui sont installés, entre guillemets, parce que c'est quand même pas toujours très confortable, mais qui sont installés dans un CDI. À côté de ça, vous avez 9 embauches sur 10 qui se font en CDD. Sachant que seuls 2 salariés sur 10 qui sont en CDD parviennent au final à décrocher un CDI, ce qui est quand même 2 fois moins que dans la moyenne des pays européens. Sans parler des non-qualifiés qui sont quand même 80% des inscrits à Pôle emploi. Et donc l'idée, c'était au contraire de faire tomber les barrières à l'embauche. Et finalement, on se retrouve à qui est le grand gagnant de ce projet de loi, c'est déjà le salarié bien installé en CDI
comme
dans la grosse boîte, puisqu'il n'assumera finalement aucun risque nouveau et qu'il aura même des droits supplémentaires.
Ouais, alors 10 jours de consultation, donc après l'annonce de ce report, Manuel Valls était en fin d'après-midi.
Les Français ont exprimé des inquiétudes, mais les Français veulent des réformes. Nous avons donc modifié le texte initial. Et nous l'avons donc amélioré. Et aujourd'hui, ce texte prend un nouveau départ. Aujourd'hui, nous prenons un nouveau départ.
Oui, il utilise, Véronique Jérôme, le terme « on a amélioré le texte ». Alors reste à savoir, on l'a amélioré vis-à-vis de qui, hein, aussi. Il parlait à qui cet après-midi, Manuel Valls? Il parlait aux jeunes qui ont commencé à défiler la semaine dernière. Il parlait aux durs, la CGT, Force ouvrière, qui systématiquement disent non à tout. Il disait parler au patron ou il parlait à la CFDT, la CGC? À qui il parlait cet après-midi?
C'est une communication politique, effectivement, et il essaye de rendre compatible l'incompatible. Il nous dit de flexibilité et sécurité. Quand on dit sécurité, on essaye de nous faire croire ici qu'avec plus de carcan, qu'avec plus de rigidité, comme vous l'avez tous deux fort bien dit, avec plus de rigidité, on va donner la sécurité aux salariés. Mais la vraie sécurité pour le chômeur, c'est l'emploi. Donc là, il n'y a pas d'emploi derrière. Véritablement, on est un peu sur sa fin. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a deux Manuel Valls où il y a un discours et puis le discours paraît à un premier degré, il semble finalement pétri de bonnes intentions. Et puis en même temps, quand on le met en perspective de cette loi et de la réalité de cette loi qu'on n'a pas encore, pour l'instant, on a des intentions. On ne connaît pas exactement le texte. On a l'impression que c'est un autre discours. Il y a un peu ce qu'il aurait aimé faire et puis là, ce qu'il va devoir faire sous pression de la rue. Alors on sait très bien, on a regardé avec ElectionScope depuis 73, depuis là où on a des données. Les conflits uniquement avec les jeunes dans la rue, eh bien on s'aperçoit que dans 70% des cas, c'est sous un gouvernement de droite, sous 30% des cas, sous un gouvernement de gauche, mais quel que soit le gouvernement, en moyenne, ils perdent 5 points. Alors je vous passe les détails et les cas extrêmes où c'était moins 19 points pour Villepin, par exemple, ça n'a été que moins 4 pour Balladur en mars 94, mais l'année d'après, ils perdaient 11 points. Donc on sait
le
très
CIP
bien que la
Balladur,
rue...
Le CPE pour Villepin.
Voilà. Et on sait très bien que la rue, c'est un vrai danger. Mmh. La menace est vraiment crédible de la part de la rue. Par contre, là où il peut y avoir un problème, c'est que ce qu'il va gagner aujourd'hui en donnant finalement des gages à la gauche de la gauche, il peut très bien le perdre demain parce que le gouvernement risque de perdre en crédibilité et de perdre à terme peut-être les élections.
Jean-Claude Vollo, les syndicats, les jeunes, manifestement ont fait peur à l'exécutif, pas les patrons.
C'est les jeunes, effectivement. En plus, il m'a semblé quand même par rapport à avoir suivi par le passé toutes les manifestations étudiantes et lycéens, que
c'était quand même pas la déferlante
chose par rapport à ce qu'on a connu.
Bien sûr.
J'ai tué moi à 68 ans, alors je pensais bien que j'ai connu ça, j'ai passé mon bac en 68. Enfin, ils me l'ont donné.
Ouais.
Mais c'était pas ça, hein. Je peux vous dire que c'était autre chose. Emmanuel a très bien expliqué qu'une fois de plus, ce sont des dispositifs qui vont profiter aux salariés en place, qui vont nuire aux chômeurs, qui vont nuire aux jeunes. 25% d'entre eux ne trouvent pas de travail. Et on manipule ces jeunes pour les emmener s'opposer à ça. Et ça va nuire aux PME. Parce qu'on dit que le réservoir d'emploi, il est chez les PME, mais les mesures qui ont été prises, comme le forfait, par exemple, ça nuit aux PME. Et tout nuit aux PME. Et non pas aux grands groupes, parce que si vous croyez que les grands groupes internationalisés vont avoir peur des dispositifs et des améliorations...
Mais d'ailleurs...
Je rappelle la mesure qui concerne les PME. Hein, les PME qui devront notamment passer par un accord collectif pour appliquer le forfait jour ou moduler les astreintes. Ils pourront négocier avec un salarié mandaté par un syndicat s'ils n'ont pas de représentation syndicale. En tout cas, à défaut d'accord, le droit actuel s'appliquera. Emmanuel.
D'ailleurs, dans la hiérarchie des gagnants et des perdants, le grand gagnant, c'est le salarié en CDI dans la grosse boîte, mais le deuxième gagnant, c'est le patron de la grosse boîte.
Ah oui.
Hein, puisque finalement, lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a quand même gardé les références aux accords d'entreprise. Ça, c'est toujours dans la nouvelle version de la loi. Et puis, le gouvernement n'a pas trop reculé sur la précision des conditions économiques du licenciement. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une espèce de principe de vase communicant entre le contrat de travail et les prud'hommes. Parce que si vous définissez de façon beaucoup plus précise dans votre contrat de travail les conditions de la rupture du contrat, forcément, il y a moins d'incertitudes ensuite aux prud'hommes. Donc finalement, la grosse boîte, elle s'en tire pas si mal que ça dans cette négo. Par contre, c'est quand même les PME qui morflent. Et je rappelle que les PME, c'est 96% des entreprises, c'est les deux tiers des emplois, et c'est surtout 100% des créations d'emplois.
Les critères de licenciement économique, en effet précisés par l'avant-projet de loi, donc qui sera normalement présenté le 24 mars en Conseil des ministres, ils ne seront pas modifiés, ces critères, notamment les 4 trimestres consécutifs de baisse du chiffre d'affaires et les 2 trimestres consécutifs de perte d'exploitation. Mais le juge, là encore, le fameux juge, pourra vérifier que les multinationales n'organisent pas artificiellement leurs difficultés économiques sur le territoire français pour licencier. Alors, les gagnants, les perdants, côté syndicat, côté patronat. La CGC de Madame Couvert décidera donc lundi prochain, le 21 mars, si le projet de loi travail a suffisamment bougé. Concernant la CFDT, Laurent Berger y voit donc des améliorations, des progrès. Voilà ce qu'il disait cet après-midi.
La CFDT, elle attend l'écriture, mais clairement, aujourd'hui, si ces annonces se manifestent dans l'écriture du projet de loi, la CFDT, elle se positionnera lors de son bureau national mercredi et jeudi, mais elle considère que nous avons fait avancer ce texte. Et finalement, c'est bien le rôle des syndicalistes de s'opposer lorsque c'est pas, on n'est pas d'accord. C'est ce que nous avons fait, de proposer et d'engranger les résultats quand il y en a.
Voilà le rôle des syndicalistes mis en avant par Laurent Berger. Il y a 2 syndicats qui, de toute façon, ont dit non à ces modifications, à ces annonces faites cet après-midi. Il y a la CGT. Et puis également Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly.
Le Premier ministre constate qu'il y a un désaccord effectivement avec nous sur la philosophie générale. Moi je lui dis, nous considérons que c'est une rupture par rapport à la manière dont nous négocions. J'ai rappelé ce qui se passait également dans d'autres pays, donc j'ai confirmé pour Force Ouvrière la demande de suspension et comme il ne veut pas suspendre, de retrait du texte.
Ça veut dire quoi Jean-Claude Vollot ? On a reculé, le gouvernement a reculé alors que les plus durs, on le savait, ne se montrerait pas convaincu. On savait, la position de Jean-Claude Mailly,
forcément surprise. Il dit toujours non. Mailly, c'est pas dire oui. Il a dû déchirer la passe du oui de son dictionnaire. Il sait pas ce que c'est de dire oui. De toute façon, c'est impossible de discuter avec quelqu'un comme Mailly. Dans le seul intérêt, c'est la défense, évidemment, des fonctionnaires, puisque l'essentiel de sa clientèle sont des fonctionnaires et non pas les gens des PME. Et donc, on est quand même dans une histoire de dupes sur toute la ligne. Mailly, tiens, j'aurais bien le voir un jour ici en débat, tiens. On pourrait s'amuser, je garantis. Invitez-le et vous m'organisez ça. On va s'amuser 2 minutes, là.
Véronique Jérôme, Électionscope.
Moi, j'ai l'impression quand même que la CFDT est un peu là pour passer les plats, entre guillemets, passez-moi l'expression. En même temps, les syndicats qui s'opposent sous un gouvernement de gauche, on n'est pas habitué à ça non plus. Donc là, il y a un vrai problème. Mais est-ce que ce n'est pas contre le social réformisme de Manuel Valls qu'ils se sont opposés ? Est-ce qu'il n'y a pas là un discours de la gauche qui se déchire ? Parce que finalement, la gauche se déchire. Et François Hollande marque le début d'un retour, d'une barre à gauche à nouveau, après avoir tenté, après avoir engagé finalement une réforme qui se voulait finalement la grande réforme de son quinquennat. On s'aperçoit ici que les intentions sont là, mais les résultats n'y seront peut-être pas. En même temps, ils risquent d'être perdants. Ils vont perdre ce qu'ils pensaient gagner en ayant cette réforme très de teneur libérale. Ils pensaient finalement draguer le centre. Ils vont perdre le centre et en même temps ils perdent sur leur gauche. Et ce recul, ce n'est qu'un signe de faiblesse. Ils vont perdre la confiance.
Bruno Le Roux, tout à l'heure, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée, se disait sûr d'une majorité sur cette loi El Khomri à l'Assemblée. Jean-Claude Vollot à la tête de Diane Aerospace.
Vous avez une lecture politique des événements que j'apprécie. J'ai quand même l'impression, parce qu'on parle de l'événement et d'une loi, du concret, du quotidien. Mais qu'il y a derrière la CGT et FO quelque chose de bien plus lointain, concernant une vision, une conception même de la société qui les conduit forcément à dire non et surtout pas à dire oui, même si leur but étant que, en fait, cette société se désagrège, en fait, et qu'ils puissent arriver à leur fin.
Mais d'ailleurs,
je ne veux pas être paranoïaque démesurément, mais j'ai quand même bien l'impression que c'est
ça. Et rajoutons l'UNEF aussi, Véronique Jérôme, à la liste de la CGT et de Force Ouvrière. Allez-y, Véronique.
L'UNEF s'oppose. Ce que l'on voit aussi ici, c'est que finalement, cette stratégie, elle est perdante. On a aussi peut-être l'impression. Alors, est-ce qu'on peut oser cette idée qu'on aurait voulu peut-être, il y a un baron noir qui a envie d'éliminer Valls, peut-être qu'il y a une
la volonté fameuse série de Canal+.
Voilà. Et finalement, elle est criante de vérité. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a envie d'un premier ministre un peu plus à gauche, qui a envie d'une véritable réforme. Alors, quand une partie des députés PS disent, on ne la votera pas cette fois s'il n'y a pas de modification, ils ne sont pas crédibles. Prendraient-ils le risque d'aller jusqu'à l'organisation de législative partielle. Quand on voit les résultats des
trois partiels... Sauf que là, Véronique, il n'y a plus un député républicain qui votera cette loi.
Bah non, parce qu'elle est plus conforme à l'esprit du départ.
On risque d'avoir effectivement...
Non, ce que vous dites, Véronique, est très juste. Je pense qu'il y a une forme de... Les députés socialistes aujourd'hui sont très contents que les choses se passent en dehors d'eux, alors qu'ils sont la représentation nationale, et que c'est eux qui devraient faire ce que viennent de faire la CFDT et les autres. C'est eux qui devraient faire. Mais ils se déchargent de la responsabilité de faire ce débat.
Ce qui était prévu dans le schéma initial, c'est que justement l'abandon de la barémisation des indemnités prud'hommes soit une concession faite aux frondeurs. Or là, on voit bien que ce gouvernement, il va arriver maintenant, parce que n'oublions pas que c'est que le début du processus législatif, que ce gouvernement, il arrive, il n'y a plus de cartouches. Qu'est-ce qui va rétrocéder finalement à ces frondeurs? Ouais. Alors peut-être que ça les arrange, hein, mais
j'ai bien l'impression,
c'est très compliqué.
Ouais. Gros problème, hein, ce retrait du plafonnement des indemnités prud'homales, hein, c'est ce que disait donc tout à l'heure Pierre Gattaz, président du MEDEF, et qui poursuit justement sa réflexion, toujours dans la cour de Matignon.
Si nous reculons, et s'il y a encore des reculades sur ce texte, je dirais que c'est la fin des haricots. Je ne sais pas ce qu'on attendra et je voudrais surtout pas que ce soit la victoire des corporatismes, des immobilismes, des luttes partisanes, politiciennes qui l'emportent sur les forces, qu'elles soient de gauche ou de droite, de la réforme absolument fondamentale pour le pays.
Victoire des immobilismes, disait Pierre Gattaz. Jean-Claude Vollon, on gère à la petite semaine, c'est du temps perdu, une nouvelle fois, beaucoup de temps perdu.
En plus, ce qui est terrible, c'est que soit les extrémistes FO, CGT arrivent à leur fin un jour qui sera que la société sera recomposée telle qu'ils la souhaitent, soit de toute façon, dans 3 mois, dans 6 mois, ce qui a été aujourd'hui rayé reviendra parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Comment peut-on baisser le chômage dans ce pays sans aller dans ce qui était initialement la loi de Mme El Khomri ? On ne peut pas, je ne vois pas. Et puis, nous avons tous les exemples étrangers. Et pourquoi la France serait-elle autrement que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et tous les autres?
Le gouvernement jouait gros au travers de ses arbitrages. Emmanuel Lechypre, Véronique Jérôme. Est-ce que Manuel Valls prolonge son parcours à Matignon, là, ce soir, ou pas?
On pouvait s'attendre à ce qu'il fasse finalement le bras de fer avec François Hollande. En même temps, c'est François Hollande qui reprend la main. On a rarement vu quand même un président se mettre à la tête d'un projet de loi. Normalement, c'est le Premier ministre qui est les mains dans le cambouis. Le président, attend que ça se passe.
Il s'en est défendu, à l'Élysée.
Alors, on ne sait pas trop, mais on voit bien.
C'est Matignon qui a évidemment la main sur ce projet de loi.
On voit la patte de Hollande dans cette mesure qui n'en est pas une, dans ces décisions qui sont toujours cette politique
un peu kangourou, quoi. Voilà,
un pas en avant, deux pas en arrière. On a l'impression aussi qu'il vient de découvrir qu'un Premier ministre, ça sert de bouclier parce que quand même, le Premier ministre. Là, je pense que Manuel Valls va certainement avoir des conséquences sur sa popularité et là, ce sera le vrai bouclier. En même temps, est-ce qu'il va rester, résister ou est-ce qu'il va démissionner? Je ne crois pas que ce soit véritablement à l'ordre du jour. En même temps, pour lui, ce sera un vrai problème parce que ça signifie peut-être qu'il va abandonner son avenir.
Emmanuel Lechypre et Jean-Claude Vollot, au fond.
Moi, ce qui m'a le plus terrifié, c'est la façon dont Manuel Valls parle de ce que doit être l'art de la réforme. Il présente ça comme quelque chose de consensuel. Or, tous les grands pays qui ont fait des réformes, ça n'a jamais été consensuel. Rappelez-vous, en Allemagne, Gerhard Schröder commence par faire des négociations entre syndicats. Ça n'aboutit pas, il passe au-dessus avec la loi, il va plus loin. Là, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on présente un projet de loi qui n'a absolument pas été discuté. Ensuite, on fait intervenir les syndicats qui affadissent complètement une loi dont, au final, il ne restera rien. Donc, sur l'art de la réforme, c'est vraiment le contraire de tout ce qui marche ailleurs.
Problème de communication, problème de pédagogie, Jean-Claude Vollot.
Oui, si vous voulez, c'est tout de même assez effarant parce que les peu de mesures qui ont été prises depuis que Manuel Valls est là semblaient commencer à donner des petits résultats. Je voyais l'année dernière, on a eu un solde positif en termes de création d'emplois du secteur privé. Mmh. Et donc on se dit, ah bah tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, accélérons la confiance, et puis en fait, peut-être qu'effectivement on a décollé, et que Hollande aura ce qu'il a dit. N'oublions pas qu'il a dit, je me représenterai si j'ai réussi à faire diminuer le chômage. Il était sur une micro-courbe qui commence à se manifester, il rechute. Bon, de toute façon, je crois qu'on ne le reverra plus. Hein.
Merci à tous. Jean-Claude Volo avec nous à la tête de Dedienne Aerospace, Véronique Jérôme, politéoéconomiste à Electionscope, et puis Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. C'est pas fini les décodeurs de l'écho. Je vous disais, actualité extrêmement riche ce soir. Dans un instant, oui, retour sur cet attentat sanglant hier à 40 km d'Abidjan, sur la plage très fréquentée de Grand Bassam, un dimanche après-midi. 16 morts, hein, dont 4 Français justement. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut être déstabilisée? Est-ce que l'économie de la région peut subir les conséquences? On ouvre le dossier évidemment dans un instant. Vous restez avec nous. Bonne soirée sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.